Dans notre série sur l'apôtre Paul, nous avons considéré la dernière fois la séparation de Paul et de Barnabas, dont le récit se trouve à la fin du chapitre 15 du livre des Actes. Une séparation qui intervient quand il est question de partir pour un deuxième voyage. Nous lisons à la fin de ce chapitre 15 du livre des Actes, quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. » Barnabas était décidé à prendre aussi avec eux Jean, appelé Marc, mais Paul estimait ne pas devoir prendre avec eux quelqu'un qui les avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le conflit devint tel qu'ils finirent par se séparer. Le conflit devint tel, lisons-nous, qu'ils finirent par se séparer. Et c'est ainsi que vont être constituées deux nouvelles équipes missionnaires. D'un côté, Barnabas et Marc, qui vont prendre la mer en direction de Chypre, et puis Paul et Silas qui vont remonter au nord en passant par la Syrie et la Cilicie. Je poursuis la lecture. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il passait par la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. Ce deuxième voyage de l'apôtre Paul va durer environ 3 ans et va les emmener jusqu'en Grèce. Ça fait à peu près, à la louche, parce qu'on ne sait pas exactement tous les détours qu'il a pris, mais vraisemblablement 5 000, voire un peu plus de kilomètres pendant ce périple, ce qui est considérable pour l'époque. Le premier voyage, nous l'avons déjà considéré, je le montre juste pour rappel, était assez réduit puisque, vous voyez, départ d'Antioche, Chypre, et puis ensuite remonter jusqu'à Lystre et aller-retour. Le deuxième voyage, comme vous pouvez le voir là, est beaucoup plus important puisque la boucle est beaucoup plus grande jusqu'à la Macédoine, la Grèce, et puis aller-retour par Jérusalem. Paul et Silas, donc, quittent Antioche pour ce voyage. Un mot rapidement sur Silas. Qui est-il? Nous devons constater, en regardant dans l'Écriture, que nous ne savons pas grand-chose de lui. Ce que nous savons, ce que dit le texte des Actes en particulier, c'est que c'était un chrétien de Jérusalem, un des dirigeants, précise le verset 22, du chapitre 15, un dirigeant parmi les frères. Et un peu plus loin, au verset 32, il est dit qu'il était aussi prophète. Silas faisait partie des 2 délégués envoyés à Antioche par l'église de Jérusalem pour accompagner Paul et Barnabas. Il emmenait avec eux la lettre des apôtres, dans laquelle était stipulée la décision qu'ils avaient prise suite à ce fameux concile, décision où ils n'imposaient pas aux païens convertis de se faire circoncire, puisque c'était ça le grand sujet de débat. Nous y reviendrons dans quelques instants. Une fois la mission accomplie, nous lisons au verset 33 que Judas, appelé Barsabbas, c'est l'autre délégué, et Silas sont restés quelque temps à Antioche pour affermir les frères, après quoi ils sont retournés à Jérusalem. Si jamais vous avez ouvert votre Bible, il est fort probable que vous passiez du verset 33 au verset 35 et qu'il n'y ait pas dans votre traduction française de verset 34. Ce verset 34 ne figure effectivement pas dans toutes les traductions parce que on a de bonnes raisons de penser que c'est un ajout de scribe beaucoup plus tardif. Je vous le lis, ce verset 34. Il est écrit « Toutefois, Silas trouva bon de rester auprès d'eux et Judas seul s'en alla à Jérusalem. » On pense, en tout cas c'est largement accepté aujourd'hui, que c'est donc l'ajout d'un scribe qui a voulu expliquer un petit peu comment Silas était à portée de main pour partir rapidement avec Paul dans ce deuxième voyage, alors que le verset 33 stipule qu'il est retourné à Jérusalem. Une dernière précision concernant Silas, c'est que on va le retrouver dans les épîtres du Nouveau Testament, mais on ne va pas le retrouver sous son nom Silas. Il est question d'un certain Sylvain dans les épîtres, et il est tout à fait probable que ce soit la même personne et que Sylvain soit la forme latinisée de Silas, et donc quand on lit Sylvain dans les épîtres, c'est vraisemblablement de Silas dont il s'agit. Revenons à notre texte. Paul et Silas vont donc partir depuis Antioche en Syrie. Ils vont donc remonter vers le nord. Alors j'ai même le petit, hein. Donc ils partent de là, ils remontent. Je le montre parce que c'est peut-être pas très visible. Voilà le parcours en entier. Hein. Voilà. Et puis ensuite, retour Jérusalem et il y aura un retour à Antioche. Ils vont passer par la Syrie, passer par la Cilicie. Certainement que là, ils passent par la ville de Tarse, d'où l'apôtre était originaire, pour arriver à Derbé et puis ensuite à Lystre. Donc Tarse et puis Derbé et Lystre. Si vous vous rappelez, lors du premier voyage, c'est à Lystre que Paul s'était fait lapider, après qu'il ait été pris pour le dieu Hermès et que Barnabas ait été pris pour le dieu Zeus. C'est là, quand ils arrivent à Lystre, qu'il est fait pour la première fois mention d'un certain Timothée. Je lis maintenant les premiers versets du chapitre 16. Il, Paul, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Or, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive croyante et d'un grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit à cause des Juifs de la région. Tous savaient en effet que son père était grec. Timothée était déjà un disciple quand Paul est revenu à Lystre. Et il est fort probable que Timothée fasse partie des convertis de ce premier voyage, quand Paul s'y était donc rendu, là, la première fois, et que Timothée est vraisemblablement un converti par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Pour abonder dans ce sens, nous pouvons noter qu'il y a à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament des mentions de Timothée comme étant l'enfant spirituel de l'apôtre Paul, ce qui va dans ce sens. Nous apprenons que Timothée était juif par sa mère et grec par son père. Ces deux précisions ont leur importance, elles ne sont pas là par hasard, et nous allons y venir dans quelques instants. Notons aussi que dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, puisque le Nouveau Testament a gardé deux lettres écrites par Paul à Timothée, il est question de la foi de la mère de Paul, Eunice, nous est-il dit, et de sa grand-mère Loïs. C'est donc vraisemblablement, on ne peut pas affirmer toute la famille, mais une grande partie de la famille qui a été touchée par l'Évangile lors de la prédication de l'apôtre Paul, vraisemblablement lors de son premier voyage. Paul revient donc à Lystre et là, il décide de prendre avec lui Timothée. Il est dit dans le texte que nous venons de lire que les chrétiens de Lystre et d'Iconium, Iconium est un peu plus au nord, rendaient un bon témoignage de Timothée. Et Timothée va donc partir avec Paul et Silas. Mais avant cela, le texte fait une précision. Le texte précise que Paul fait circoncire Timothée. Un détail qui pourrait passer inaperçu, presque anodin, mais qui mérite que nous nous y arrêtions un instant. Comment comprendre cette circoncision de Timothée, alors que par ailleurs, et nous l'avons vu encore mercredi en étude biblique, alors que par ailleurs, Paul insiste, dans Galates chapitre 5, verset 6, sur le fait que circoncision ou incirconcision, peu importe, ce qui importe, c'est la foi en Jésus-Christ. Comment comprendre cette circoncision de Timothée alors que par ailleurs Paul va s'opposer et s'opposer vivement à ceux qui veulent imposer la circoncision aux païens qui se convertissent au Christ? Comment comprendre cette circoncision de Timothée alors que par ailleurs Paul avec les apôtres de Jérusalem viennent de décider de ne pas imposer la circoncision aux païens qui se convertissent, et Paul était d'ailleurs porteur d'une lettre pour les chrétiens d'Antioche. Comment comprendre cette circoncision de Timothée alors que, par ailleurs, Paul va refuser qu'un autre de ses compagnons, Tite, soit circoncis sous la pression des judaïsants? Il faut se rappeler ici que certains chrétiens à l'époque, que l'on appelle donc communément les judaïsants parce qu'ils voulaient revenir à la loi, affirmaient et enseignaient la nécessité de la circoncision pour le salut. Et c'est cette question, nous l'avions vu, qui est au cœur du concile d'Acte 15 et qui est au cœur de l'Épître aux Galates. Et cette position de ces judaïsants est très bien résumé au début du chapitre 15 du livre des Actes. En une phrase, nous avons compris l'enjeu. Quelques hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient aux frères, « Si vous ne vous faites pas circoncire, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Circoncision égale salut. La décision des apôtres, nous l'avons déjà redit ce matin, a été de ne pas imposer, après avoir examiné toute chose, la circoncision aux païens qui se convertissaient. Alors comment comprendre, fort de tout cela, que Paul fasse circoncire Timothée avant de partir pour ce deuxième voyage, où enfin, ils en sont qu'au tout début, alors même qu'en Galatie, il va refuser la circoncision de Tite. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que les contextes et les enjeux ne sont pas les mêmes. Circoncire Tite, et je vous invite à relire cela dans Galates chapitre 2 pour ceux qui le souhaitent, circoncire Tite revenait à capituler devant les judaïsants. Circoncire Tite revenait à accepter leur enseignement. Cet enseignement, circoncision égale salut. Circoncire Tite revenait à croire que Christ seul pour le salut n'est pas suffisant et qu'il fallait y ajouter la circoncision emblématique de l'obéissance à la loi tout entière. Ajouter la loi à la grâce de Jésus-Christ. Pour toutes ces raisons, Paul ne pouvait pas circoncire Tite sous la pression des judaïsants, parce que dans cette circonstance-là, l'enjeu était théologique, l'enjeu était doctrinal. Ce qui était véritablement en jeu derrière la circoncision de Tite, c'était la nature même de l'Évangile, la nature même du salut, la vérité de l'Évangile. Par contre, pour Timothée, les choses sont tout à fait différentes. Il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas d'enjeu théologique. Il n'y a pas de réinterprétation du salut. Il n'y a pas d'ajout au Christ pour le salut. Pour bien comprendre la différence entre les deux situations, Il faut se souvenir ici que la polémique avec les judaïsants ne portait pas sur la circoncision des Juifs, mais sur la circoncision des païens qui se convertissaient. Ce qui veut dire que la circoncision de Timothée n'est pas du tout du même registre. Timothée était juif par sa mère et il aurait dû être circoncis depuis longtemps. Il y a là une anomalie pour laquelle on ne peut émettre que quelques hypothèses. La circoncision de Timothée n'était donc pas une question théologique, mais une question de respect des traditions, des coutumes juives. La circoncision de Timothée n'a pas été faite pour son salut, mais par pragmatisme, comme le souligne le texte. Le texte dit « par égard ». On peut aussi traduire « à cause des Juifs de la région ». La circoncision de Timothée allait lui permettre d'entrer facilement en contact avec les Juifs pieux qu'il rencontrerait pendant ce voyage. Allait lui permettre d'entrer dans les synagogues. Et nous savons combien cela était important, puisque c'était là le point de départ du témoignage dans une ville, le point que choisissait souvent l'apôtre Paul. Il n'y a donc pas de contradiction entre la circoncision de Timothée et la non-circoncision de Tite. Et dans les deux situations, Paul a été tout à fait cohérent. Revenons à notre texte. En partant donc de Lystre, Paul, Silas et maintenant Timothée vont continuer vers l'ouest, jusqu'à Troas. Ils vont le faire, dit le texte, en affermissant les églises là où ils passaient et en rapportant les prescriptions décidées par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Je poursuis donc la lecture du texte. Dans les villes où ils passaient, ils transmettaient les prescriptions décidées par les apôtres et les anciens de Jérusalem, afin qu'on les observe. Les églises s'affermissaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie, ils passèrent par la Phrygie et le pays Galate. Arrivés près de la Mysie, ils tentaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Je reviens à la carte où vous pouvez visualiser ce parcours. Alors, il y a quelques endroits où on n'est pas tout à fait sûr du parcours. On ne sait pas s'il n'y a pas des lignes droites par moment qui coupent. Il y a quelques hypothèses puisque toutes les villes ne sont pas mentionnées. Mais voilà, grosso modo, le trajet. Paul et ses compagnons sont donc partis de Lystre. Ils vont continuer leur chemin pour arriver donc jusqu'à Troas, qui est là, si je vois bien. Donc, tout au bout. Pour arriver jusqu'à Troas, mais il nous faut noter ici que ce n'était pas là qu'ils voulaient tout d'abord aller. Initialement, ce n'est pas là que Paul voulait aller. À deux reprises, dans les versets que nous venons de dire, il est dit que l'Esprit Saint les a réorientés. Ils voulaient aller en Asie, verset 6, mais l'Esprit Saint les en a empêchés. Comment ? Le texte ne le dit pas. Ils voulaient ensuite aller en Bithynie, après être passés par la Phrygie et le pays Galate, mais là encore, ils en sont empêchés par l'Esprit de Jésus, précise le texte. Comment ? Pas de détails. Notons juste ici que c'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament où nous trouvons cette expression « l'Esprit de Jésus ». La seule et unique fois. Et c'est sans doute une manière de souligner que Jésus lui-même présidait à la propagation de l'Évangile. Après ces deux redirections, Dieu va conduire donc l'équipe jusqu'à Troas et de là, ils vont s'embarquer en direction de la Macédoine, et ils vont le faire après que Paul ait eu une vision. Je lis au verset 9. « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là, debout, qui le suppliait. passe en Macédoine, viens à notre secours, viens à notre secours. » Dès qu'il a eu cette vision, nous avons cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Si nous sommes familiers du texte biblique, nous savons que dans la Bible, il n'est pas rare que Dieu se révèle par des visions, par des rêves. Quand nous lisons des récits missionnaires aujourd'hui, il n'est pas rare de lire aussi que Dieu continue bien souvent à se révéler ainsi, et je pense en particulier là où sa parole n'est pas disponible comme elle l'est pour nous. Un mot sur la volonté de Dieu dans notre texte. Un mot sur la manière dont Dieu conduit Paul et son équipe. Un mot sur les portes qui sont fermées par l'Esprit Saint et celles qui sont ouvertes. J'utilise une expression que beaucoup de chrétiens aiment bien utiliser. Un mot en particulier sur la souplesse que Paul a dû avoir et que nous devons avoir à la suite du Seigneur quand nous sommes à son service. Paul et Silas pensaient aller en Asie, dit le texte, et Dieu les en empêche. Dieu ferme la porte. Ils pensaient aller en Bithynie, et là encore, Dieu les en empêche et les fait aller dans une autre direction. Il y a des fois où notre volonté coïncide avec la volonté de Dieu, avec la volonté de Dieu pour nous. Mais il y a aussi des fois où ce n'est pas le cas. Il y a même des fois où tout semble converger dans une direction, et puis finalement, après que nous nous soyons engagés dans cette direction, nous constatons que c'est une impasse. Nous pensions pourtant que Dieu nous y avait conduits. Force est de constater que la porte se referme. Et parfois, quand cela est le cas, alors nous ne comprenons plus très bien les voies du Seigneur. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté comme je l'ai déjà expérimenté. Et je crois que nous devons apprendre la souplesse à la suite du Seigneur, au service du Seigneur. Je crois même que dans la vie chrétienne, c'est une qualité indispensable pour celui qui veut suivre le Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu, c'est le Seigneur qui sait, après tout, toujours mieux que nous. Parce que c'est toujours lui qui a la vue d'ensemble, alors que nous, nous avons toujours que la vision d'une partie. Parce qu'au final, si je suis un enfant de Dieu, ce que je désire par-dessus tout, c'est que ce soit la volonté de Dieu qui se fasse, et non pas la mienne à tout prix. Et puis parce que finalement c'est lui le Seigneur et pas moi, et si ses plans ne sont pas les miens, ce n'est que logique. Cette souplesse est un apprentissage. C'est un apprentissage qui est parfois douloureux. Mais c'est un apprentissage qui est toujours pour notre bien. Et il est essentiel que nous apprenions et que nous réapprenions sans cesse dans nos vies, dans notre vie, à laisser Dieu nous conduire comme bon lui semble. À laisser que nous apprenions à recommander notre sort à l'Éternel. Alors je dis cela, mais je corrige tout de suite un petit peu le tir, pour dire que, bien évidemment, tout n'est pas toujours difficile à la suite du Seigneur. Heureusement, il y a des chemins tracés qui sont évidents dès le départ et qui le restent. Il y a des chemins tracés qui sont évidents dans lesquels nous nous engageons et nous allons jusqu'au bout. C'était bel et bien la volonté du Seigneur et elle coïncidait avec mon désir. La question de la volonté de Dieu n'est pas toujours épineuse. Bien des fois, Dieu nous conduit simplement par sa parole, par son esprit, par les frères et sœurs dans les discussions, par le bon sens, par les circonstances. Et je dirais que c'est la très grande majorité des cas. C'est ainsi que très souvent Dieu nous conduit. Mais il y a aussi des fois où ce n'est pas ainsi. Il y a aussi des fois où, alors que tout convergeait, alors que Dieu semblait avoir ouvert une porte, alors que tous les feux étaient passés les uns après les autres au vert, Dieu ferme la porte et nous devons rebrousser chemin ou alors tout simplement changer de direction. Et c'est là qu'il nous faut apprendre et vivre la souplesse, apprendre à être malléable dans les mains du potier céleste, apprendre à être flexible dans les mains du portier céleste, lui qui possède toutes les clés de toutes les portes qui sont sur notre chemin. C'est là aussi que nous devons apprendre à ne pas passer par la fenêtre quand Dieu ferme la porte. C'est là que nous devons nous rappeler que les voies de Dieu ne sont pas toujours nos voies. C'est le prophète Ésaïe qui le dit avec ses versets très connus, Ésaïe 55. C'est Dieu qui parle, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes voies, déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Cette vérité biblique, déclinée de bien des manières dans la Bible, nous rappelle que s'il faut avoir des convictions fortes au service du Seigneur, et c'est une force, s'il faut des projets solides, et c'est important qu'ils le soient, il faut aussi une certaine souplesse pour laisser Dieu nous conduire, et parfois pour le laisser nous rediriger, parce que ses voies ne sont pas nos voies. Parce que sa volonté ne coïncide pas toujours avec la nôtre, et je pourrais le dire aussi dans l'autre sens. Il y a un chant que nous chantons parfois et qui dit « Rends-nous souples ». On chante beaucoup de choses, hein, on ne pense pas toujours à ce qu'on chante, mais « Rends-nous souples ». Ça peut parfois être, hein, quand on a perdu de la souplesse, au début, ça peut parfois faire un peu mal, mais c'est pour notre bien. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. C'est bien de cela dont nous parlons. Sois le roi, sois le Seigneur. Et s'il l'est dans ma vie, alors que sa volonté se fasse. Oui, Seigneur, que notre volonté se plie à la tienne. Que tes voix deviennent mes voix. Rends-nous souples, rends-moi souple devant toi. Aide-nous, Seigneur, et apprends-nous à accepter tes voies, même celles qui sont différentes de celles que j'avais espérées, de celles que j'avais choisies, de celles que j'avais voulu, peut-être ardemment. Aide-nous, Seigneur, et apprends-nous à nous réjouir des changements de direction que parfois tu opères dans notre vie, que parfois tu proposes dans notre vie. Aide-nous aussi, Seigneur, à nous réjouir et à te remercier pour toutes les fois où notre volonté coïncide avec la tienne. Ceci dit, les voies de Dieu ne sont pas toujours nos voies, et j'ajouterai heureusement. Heureusement parce que c'est Dieu qui est tout, qui est entièrement sage. Et sa sagesse est bien plus grande que la nôtre. Heureusement parce que ses voies, même quand je ne le comprends pas toujours, sont toujours les meilleures. Heureusement parce que c'est lui qui a la vue d'ensemble. Et c'est lui qui fait concourir toutes choses, affirme ce beau texte des Romains. Toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son projet. Heureux l'homme que le Seigneur conduit. Heureux l'homme qui se laisse conduire par le Seigneur. Le prophète Jérémie le dit ainsi. C'est encore le Seigneur qui parle. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Heureux l'homme que le Seigneur conduit. Heureux l'homme qui se laisse conduire par le Seigneur. Une expression bien connue dit que l'homme propose, mais que c'est Dieu qui dispose. Et cette expression, peut-être, s'appuie sur une parole des Proverbes. Proverbes chapitre 16, verset 1, qui dit « L'être humain s'organise, c'est du Seigneur que vient la réponse. » L'être humain s'organise, c'est du Seigneur que vient la réponse. C'est vrai dans notre vie. C'est vrai pour chacun de nous individuellement. Et c'est vrai aussi pour nous en tant qu'Église. Il est bon d'avoir des projets, c'est important. Il est bon d'avoir des idées précises sur ce que nous voulons, sur le chemin à suivre, d'avoir des convictions fortes. Mais jamais, au point de ne plus être en mesure de changer de direction, si le Seigneur voulait nous réorienter, si le Seigneur nous le montrait. Jamais au point de ne pas être en mesure de vivre les temps de notre vie qui sont différents de ce que nous avions imaginé. Pourquoi être malheureux si le Seigneur nous réoriente? Heureux celui que le Seigneur conduit. Et ces temps où le Seigneur nous réoriente, je le crois, arrivent dans chacune de nos vies. À un moment ou à un autre, nous le constatons. Et c'est pareil dans la vie de l'Église. Il y a des moments aussi où nous pensions aller à droite et le Seigneur nous dit « c'est par la gauche » ou « par la gauche et par la droite ». Paul et Silas vont embarquer pour la Macédoine. Alors on a déjà fait presque 1500 kilomètres sur notre carte, depuis Antioche jusqu'à Troas. C'est pas mal pour ce matin, donc on va s'arrêter là. Ils vont ensuite s'embarquer et ils vont arriver à Philippe. Philippe, avec sa fameuse lettre aux Philippiens, il y aura beaucoup de choses à dire à Philippe, parce qu'il se passera beaucoup de choses importantes à Philippe. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Amen. Je vous ai mis l'eau à la bouche ? Nous venons d'être exhortés, chacun de nous, dans ce message à la souplesse. J'ai évoqué un chant, j'aimerais que nous le chantions maintenant, un chant.